Bacchus et Jésus en balade avec Jérémy, votre théologien et sommelier.
Enfin nous sommes là, entre nous tous les deux, seul à seul, tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais par où commencer? Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé.
Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau Bacchus et Jésus en balade. Et cette fois, Bacchus et Jésus partent en balade à Villeverac, au sud de Montpellier, en allant vers Sète. Ils partent à la rencontre de Valérie Ibanez, une femme formidable qui produit du vin avec passion, vision et humilité. Pour l'accord Bible et vin, parce que c'est ce dont il est question avec Bacchus et Jésus en balade, c'est à la fois de parler de vin, de parler de terroir, mais aussi de parler de la Bible et de faire un accord Bible et vin comme un accord mets et vin en restaurant. Et donc, en fait, je suis votre sommelier à la radio et pour l'accord Bible et vin, donc, nous prendrons nos marques. Nous allons aller au domaine Roquemal et je vous invite à aller regarder son site internet www.roquemale.com. Un domaine en plein cœur du village où Valérie conjugue histoire, héritage et vision de l'avenir.
Bon, salut Valérie. Aujourd'hui, tu nous amènes, tu me fais découvrir. On se croise depuis un moment sur les salons dans le vin. On est deux amoureux du vin. Et puis au final, c'est la première fois que je viens à ton domaine.
Exactement, exactement. C'est à marquer d'une pierre blanche.
Exactement, et d'un bon verre de vin.
On va essayer. En tout cas, aujourd'hui, il fait froid, ça va nous réchauffer.
Ouais, c'est ça. Alors, tu voulais me faire un peu découvrir...
Oui, je vais te faire découvrir notre cave. Allez. En fait, nous sommes installés dans le village.
Ouais.
Parce que comme je te le disais, quand on s'est lancé dans cette aventure il y a un peu plus de 20 ans, on est tombé amoureux de 10 hectares de vignes qui se trouvent sur un tènement minier. Parce qu'à Villeverac, on a longtemps, et c'est d'ailleurs toujours en activité, extrait la bauxite. Hein, la bauxite, c'est un minerai de fer. Et donc, on a un terroir. Nos vignes sont plantées sur les anciennes mines de bauxite. Donc, on a un terroir riche en fer, avec donc une jolie minéralité. Et puis, cette richesse en fer qui amène des acidités un peu hautes, ce qui est bon à prendre dans un terroir qui est un peu chaud. Hein. Nous, on n'est pas en altitude ici, on doit être à 80, les bras levés, à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Oui, on est à Villeverac ici.
On est à 30 km de Sète, hein, on est près de l'étang de Thau. Donc, ce qui nous amène de la fraîcheur, c'est un peu cette présence marine et l'étang de Thau à côté. Et c'est vrai que cette richesse en fer dans le sol est intéressante aussi pour nous amener une fraîcheur naturelle. Voilà. Et donc, comme je te disais, quand on a acheté les vignes, on pensait construire notre maison et notre cave au milieu de nos vignes. Et puis, ça n'a pas été possible, donc, à cause de ces mines de bauxite. Et on a loué longtemps un garage dans le village. Et puis, en 2006, on a eu la chance d'acheter cet endroit-là que tu es en train de découvrir.
C'est magnifique.
Qui est une ancienne cave qui a été terminée en 1914.
D'accord.
Quand on l'a récupérée, elle était abandonnée depuis 50 ans. Donc, il y avait de la terre battue. Enfin, voilà, tout était dans son jus, des foudres, des cuves en béton. Et on a tout refait. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de garder un peu le charme d'antan et puis de la mettre au goût du jour. Alors, surtout, la possibilité de bien nettoyer, d'isoler. Et les anciennes cuves béton, tu vois, on les a ouvertes. Donc là, on a un petit chai d'élevage. De l'autre côté, on a un peu de stock de vin pour préparer nos commandes. Et on a beaucoup de cuves ici parce qu'on travaille en parcellaire. On a fait ça depuis le début. Nous, on est enfants de viticulteurs. On a grandi dans des familles qui produisaient des raisins, mais pas du vin.
C'était beaucoup le cas dans le Languedoc.
Voilà, voilà.
Très, très lié aux caves coopératives.
Donc, exactement. Donc, on a grandi dans des vignes. On est vraiment des enfants des paysans et de viticulteurs.
Quand tu dis « on », c'est que tu es avec ton mari.
Voilà, voilà. Ici, on n'est qu'un couple sur 10 hectares. On est que tous les deux. On a un petit peu d'aide pendant la taille et un petit peu pour les travaux de printemps. Et bien sûr, on a une équipe de vendangeurs qui sont les mêmes depuis 20 ans pour les vendanges. Mais sinon, on est tous les deux seuls sur cette exploitation. Pour revenir à ces cuves, voilà, on a travaillé en parcellaire. On a vinifié parcelle par parcelle pour apprendre à connaître notre, notre terroir. Et ça, couplé à l'assemblage, qui est pour moi la principale force de cette région, on a, comme un peintre, plusieurs couleurs pour travailler quand on arrive aux assemblages. On a beaucoup fait du travail sur ce vignoble, dont on a hérité avec des jeunes vignes, des vieilles vignes. On a un peu arraché, on a replanté. Depuis 10 ans, on replante beaucoup de cépages vraiment typiques Languedoc.
C'est-à-dire, est-ce que tu peux me dire quel cépage?
On a replanté de la Ramon, on a racheté des Alicantes, on a replanté du Carignan, beaucoup de Cinsault, parce que on s'aperçoit qu'avec le réchauffement climatique, ce sont des cépages qui résistent mieux. Et puis qui sont aussi plus adaptés à ce qu'on a envie de boire, des choses un peu plus de buvabilité. Je dis pas qu'il faut plus planter de la Syrah. Les Syrahs qu'on a, quand elles atteignent une trentaine d'années, je pense que la vigne, elle a beaucoup de résilience. En tout cas, elle s'adapte très bien à tout ce qui vient de se passer, mais il faut un certain âge. C'est plus compliqué sur des jeunes vignes, surtout sans eau. Voilà. Pour moi, il n'y a rien qui remplace le bon sens paysan. En agriculture, je pense qu'on n'a pas inventé grand-chose. Alors, il y a eu des progrès qui ont été faits, notamment en œnologie, tout ce que tu veux, mais après, sur ce qui est du bon sens paysan et des choses qui sont immuables et qui vont toujours fonctionner, je pense que là, on a beaucoup de leçons à tirer de ça.
Alors, c'est super intéressant que tu me parles de l'assemblage pour toi, parce qu'en fait, je voulais te parler de ça, parce que dans les milieux ecclésiaux, justement, il y a plein de mélanges, et qu'est-ce qu'on fait de la différence des uns et des autres, qu'est-ce que ça apporte? Donc toi, la plupart de tes cuvées, c'est des cuvées d'assemblage ou...
Ah oui. Alors après, notamment par exemple sur une cuvée qui s'appelle Méli-Mélo, qui est une grosse base d'Alicante bouchée, parce que lui, pour le coup, je ne sais pas à qui on pourrait le comparer, mais il est difficile à assembler.
D'accord.
C'est un cépage qui a beaucoup de rusticité, qui prend beaucoup de place, qu'on vinifie d'une certaine façon, parce que voilà, il a ce côté, ça prend toute la place. Voilà, donc ça marque énormément. Mais là, ça fait quelques années qu'on l'assemble, par exemple, avec du Cinsault. Pour moi, l'assemblage, c'est vraiment une force incroyable, dans le sens où, indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ce réchauffement climatique, cette chaleur qui fait que certains cépages ont trop chaud, qu'on manque de jus, on a du coup toute une famille avec des personnalités différentes qui vont à un moment donné amener de la fraîcheur, amener de la douceur, amener plus de tanins. Et du coup, ça nous facilite. Moi, j'ai un copain qui dit que dans le sud, on est des vinificateurs feignants, mais je pense qu'il a un peu raison. Moi, je me mets toujours à la place du Bourguignon, qui n'a que du Chardonnay ou que du Pinot. Et moi, je lui tire, je suis vraiment très admirative, parce que du coup, il a qu'une corde à son arc. Alors, bien sûr, il y a l'aspect des terroirs et des climats, mais chez nous, on a cette grande chance, et avec un panel qui est vraiment très large. Donc, si on pourrait comparer ça aux hommes et aux femmes, c'est vraiment chacun avec sa personnalité, chacun avec son tempérament, qui va amener quelque chose de différent. Et ensuite aussi, depuis quelques années, on a changé nos contenants d'élevage. Donc tu me disais que tu étais chez Anaïs il n'y a pas très longtemps. Pour moi, c'est la reine de la jarre ou de l'amphore, suivant, ou de la dolia, comme on les appelle. Voilà. Nous aussi, on fait un petit peu d'élevage, mais sur des rouges, pour améliorer la buvabilité. On a gardé aussi les barriques, surtout sur des 400 litres. Et on fait donc un peu d'élevage en inox, un peu d'élevage en jarre, un peu d'élevage en barrique. Et ça aide en fait à améliorer cette buvabilité, à avoir des vins qu'on n'est pas obligé d'attendre autant, qu'on pourra garder si on veut. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça correspond à notre goût à nous, c'est-à-dire avoir envie de finir le verre. On va se remettre au chaud.
Allez, ouais, c'est vrai qu'il fait frais en ce moment, hein.
Oui.
Il y a un chat aussi.
Voilà, donc on fait aussi de l'hébergement.
D'accord.
C'est-à-dire que cet endroit, c'était un achat important pour nous. Donc on a des chambres d'hôtes et là on a un petit gîte. Tu vois, cette petite maison, c'est un gîte. Petit havre de paix au milieu du village.
Plus, voilà, s'ils cherchent du vin, tu fournis.
Voilà, ils peuvent se mettre sous la cuve, ouvrir la bouche, ils sont prêts.
Et il fait meilleur ici.
Voilà. Et donc ça, c'est la maison où les gens viennent prendre leur petit déjeuner quand ils dorment chez nous.
Le terroir de...
Alors là, on est argilo-calcaire. Voilà. Beaucoup de bauxite, des bauxites rouges et blanches. En fait, la bauxite, c'est un minerai qui est profond. Nos vignes sont dans un graben d'effondrement. C'est-à-dire, ça fait une petite vallée. L'avantage, c'est qu'on est quasiment, on est les seuls vignerons dans cette vallée. Donc, tu vois, en bio, c'est quand même assez génial.
Ouais, c'est commode,
Entouré de garrigues avec des terrasses tout autour. Donc, tu as vraiment un microclimat Toute la Combe est en appellation Grès de Montpellier, mais après, bien sûr, avec certains cépages comme l'Aramon ou l'Alicante, on est de facto en IGP 100. Là, on fait un vin qui s'appelle Comme Avant, on l'a appelé comme ça. Et tu es à même pas 12 degrés, quoi. On a un équilibre qui est vraiment, ça ressemble pas à du gamay, en fait, à ce côté juteux. Tu sais, moi, je viens je travaillais il y a 40 ans dans le négoce. J'étais une femme qui vendait des vins du Languedoc à l'étranger. Donc, vraiment, j'étais le...
Tu cochais
toutes les cases. Et ce que j'ai appris rapidement, c'est l'humilité dans le vin. Et je pense qu'il faut vraiment rester humble parce qu'à l'aveugle, tu peux vraiment te tromper, mais de façon, moi, parfois même, je peux ne pas reconnaître mes vins. Donc, je crois qu'il faut vraiment être humble dans le vin. Il faut prendre son temps. Et je crois que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et c'est ce qui va faire aussi un peu la différence pour demain, par rapport à ta question. C'est essayer de se détacher un peu de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le manque de nuances, le manque de temps, etc. Et revenir un peu à l'essentiel, c'est-à-dire peut-être produire moins, mais produire mieux.
Bacchus et Jésus en balade avec Jérémy, votre théologien et sommelier.
De retour dans le studio pour ce podcast sur Radio FM+, que vous pouvez trouver sur internet radiofmplus.org, sur lequel vous trouvez tous les podcasts. Vous pouvez aussi retrouver le Facebook de la radio à Radio FM-plus sur le petit moteur de recherche de Facebook. Et vous pouvez aussi envoyer des réactions, des commentaires, vos recettes de cuisine ou ce que vous voulez, ou comment ça va aujourd'hui, ou votre bulletin météo personnel sur communication@radiofmplus.org. Et bien, c'était une balade de Bacchus et Jésus à Villeveyrac, au domaine Roquemal, à la rencontre de Valérie. Vraiment, allez à sa rencontre parce qu'elle vaut le détour. C'est une femme de caractère, c'est une vigneronne engagée, c'est une vigneronne de cœur. Et ces vins, on le ressent dedans. Et justement, en parlant de ces vins, j'aimerais qu'on déguste la cuvée Méli-Mélo dont elle parle, qui est à base d'Alicante et de Cinsault. Alicante majoritairement, et aussi un petit peu de Cinsault pour tempérer ce caractère tempétueux. Voilà. Oh, qui sent bon déjà le bouchon. Alors. Donc la cuvée Méli-Mélo en IGP Pays d'Hérault, parce que l'Alicante ne fait pas partie des AOC. Donc même si elle est sur un terroir des Grès de Montpellier, elle ne peut pas faire un AOC en mettant de l'Alicante dans la bouteille. Cette bouteille, vous pouvez la retrouver chez les bons cavistes ou au domaine pour un prix de autour de 11,50€. Alors dégustons ça ensemble. Le nez déjà est très aromatique, on est vraiment sur le fruit noir. On a de beaux arômes de myrtille bien mûre, un peu de cassis. Il y a cette note végétale du cassis qui est très intéressante. Il y a un petit peu la note griotte. Vous savez, quand j'étais gamin, mon grand-père, il avait des vignes, des asperges, et il avait aussi des cerisiers. On allait les récolter quand on était gamin. Et quand on le récoltait directement sur l'arbre, qu'on saisissait la queue, qu'on croquait cette cerise, qu'il y avait ce jus qui coulait, c'est un peu cette odeur-là que j'ai de ce vin, ce fruit mûr, pulpeux, sous un beau soleil d'été. La bouche est ample, voluptueuse, généreuse. Et je trouve que justement, j'aime bien comparer les vins à des personnes, à des musiques, à des images. Et je trouve que ce vin Méli-Mélo du domaine Roquemal est vraiment à l'image de Valérie. On a à la fois quelque chose un vin qui a de la prestance, qui a de la grandeur, mais aussi beaucoup de finesse et d'élégance. Et si vous rencontrez Valérie, vous verrez qu'elle fait une certaine taille. Elle est plus grande que moi. Alors, je fais 1m73. Et elle pourrait impressionner, mais quand vous allez à sa rencontre, quand vous parlez avec elle, eh bien vous rendez compte qu'elle est d'une finesse, d'une précision, que ce soit dans sa viticulture ou dans sa vie et dans sa vision de la société. Elle est très très intéressante à passer un moment. Voilà. Et en plus, elle fait de l'hébergement. Donc allez faire un tour chez elle, allez passer une nuit là-bas, allez déguster des vins, allez balader dans l'Hérault à Villeveyrac. Vous ne serez pas déçus. Allez, avant de passer à l'accord Bible et vin, faisons une petite interlude musicale. Voilà, hein, on va pas traîner, on fait ça rapide, efficace, hein, voilà. Donc, je vous propose d'accorder avec ce vin un texte biblique de l'évangile selon Marc au chapitre 9 à partir du verset 38. Jean lui dit, maître, donc il s'adresse à Jésus, comme souvent dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Hein. Donc Jean lui dit, maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom et nous avons empêché, nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. Jésus répondit, ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler en mal de moi tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Et on retrouve un peu la même chose dans l'évangile selon Luc, chapitre 9, là aussi. Jean dit alors, donc à nouveau Jean dit alors, maître, en parlant à Jésus, nous avons vu un homme qui chasse des démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne te suit pas avec nous. Jésus lui répondit, ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Qu'est-ce que j'aime ce texte ? Et j'ai choisi de l'accorder avec la cuvée Méli-Mélo, qui est un assemblage d'Alicante, bouché, vieux cépage du Languedoc, vieux cépage traditionnel, cépage teinturier, très coloré, cela veut dire, et avec le cinceau, qui est plus fin, plus discret. Qu'est-ce que c'est bon, le vin ! Et j'ai voulu accorder ce texte biblique avec ce vin, parce que souvent, dans les églises, entre églises, on se pose des questions. Cette église-là ne pense pas comme moi, parce que eux, ils sont contre l'avortement. Cette église-là pense que si on croit en Dieu, on sera riche. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas les laisser parler. Et ça, c'est le genre de discours qui m'énerve profondément. Le slogan de Radio FM+, justement, c'est « La différence nous rassemble ». Mais jusqu'à quand peut-on accepter la différence ? C'est la question que je vous pose. Eh bien déjà, je pourrais vous dire, selon moi, déjà on peut accepter davantage la différence si on se pose tous les deux face à face autour d'une table avec un verre de vin ou quelque chose à déguster, un thé par exemple, si tu ne veux pas boire d'alcool, et qu'on commence à discuter, à faire connaissance, à parler les uns avec les autres. Parce que simplement dire « cette personne-là ne pense pas comme moi, c'est un con !» Eh bien voilà, je ne veux pas parler, je ne veux pas l'entendre et je ne veux pas qu'il parle. Je ne veux pas que ses avis soient entendus. Non, il ne faut pas. Eh bien, je trouve ça dommage. Parce que, ben, on perd quelque chose. Et j'aime beaucoup cette phrase que j'avais entendue une fois à la radio d'un sage africain, si on peut dire, Amadou Ampateba, qui a dit « Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère. Car tu m'ouvres un autre monde. » Et je trouve ça génial, au final. Parce que, eh bien, tu n'es pas d'accord avec moi, parle-moi de tes convictions. Parle-moi, dis-moi ce que tu penses. Par contre, autorise-moi à ne pas être d'accord et respecte le fait que je ne sois pas d'accord. C'est ce qui est important et c'est ce qui est difficile parfois dans les relations inter-églises. Parce que nous, chrétiens, parfois, nous sommes très cons. Et parce que nous pensons quelque chose qui nous est intime et profond et émouvant, parce que nous avons des convictions religieuses, spirituelles, théologiques, profondes, ancrées, nous pensons que nous sommes les meilleurs, que nous avons tout compris. Et quelqu'un peut-être qui a une approche un petit peu plus émotionnelle, nous pensons que c'est un idiot parce qu'il n'a pas réfléchi, il n'a pas fait de théologie. Et à l'inverse, parce que quelqu'un a une expérience émotionnelle de Dieu, il va dire « toi tu ne crois pas bien, parce que tu remets en question tel ou tel passage dans la Bible, hein ? Donc ta foi est mauvaise, tu ne respectes... Mais qui es-tu ?» pour te mettre à la place de Dieu. Hein ? Et je pense que si on apprenait parfois à se taire, et comme dit Valérie, à faire un petit peu preuve de nuance et d'humilité, eh bien, peut-être qu'on arriverait plus à se poser autour d'une table, à partager un verre, un bout de saucisson, un morceau de pâté, une assiette de riz, pourquoi pas, ce que vous voulez. Mais en tout cas, qu'on s'écoute, qu'on se respecte. Et je trouve que ce vin-là est une belle image de ça, une belle image de ça, parce qu'il y a de la licorne qui a un fort caractère. Il y a du cinceau qui est plus discret. Et pourtant, l'assemblage des deux, ça donne une merveille de jus, Il y a des tanins très fins, de velouté. Il y a une expression du terroir, justement, de ces mines de bauxite. Donc, il y a à la fois la chaleur du sud, mais aussi la fraîcheur du terroir de Villeverac, qui est tout ça mêlé dans une bouteille grâce au génie de Valérie et de son mari, qui arrive à vous produire des vins qui sont en fait des vins de réunion et des vins de partage.
Bacchus et Jésus en balade avec Jérémy, votre théologien et sommelier.
Alors, je vous rappelle que vous pouvez réagir justement à cette émission en envoyant un mail à communication@radiofmplus.org ou un message sur le Facebook de la radio radiofm-plus, ou vous pouvez même appeler le numéro de téléphone 06 13 43 19 35, ou vous pouvez envoyer un pigeon, un hibou ou ce que vous voulez. Et il me semble que nous avons une réaction justement.
Oui, bonjour Jérémy, c'est Bacchus, le dieu Bacchus. Je voudrais savoir, tu n'en as pas un peu marre de te faire passer pour moi dans ton émission ?
Eh bien, cette émission a été écoutée jusque dans le panthéon du dieu Bacchus. C'est merveilleux, merci pour ce retour. Et ça me permet de me poser une question. Qui sommes-nous ? Pour qui nous prenons-nous ? Pour qui me prends-je ? Est-ce que je me prends pour Dieu ? Est-ce que je me prends pour Bacchus ou Jésus dans cette émission ? Ou bien simplement, je les suis discrètement de derrière ? Eh bien, je ne sais pas trop. Je suis en psychanalyse pour régler cette question de ne pas me prendre pour Dieu. Mais c'est un peu notre tentation à nous tous, non ? Tu crois pas ? Que parfois, en prenant certaines décisions, en pensant que nous avons mieux compris que tout le monde, parfois dans nos églises, en imposant les volontés, en disant « Ben voilà, Dieu a une volonté pour toi, la volonté de Dieu c'est ça !» Et est-ce que la volonté de Dieu, ce ne serait pas tout simplement ce qui produit de la vie ? Mais qu'est-ce qui produit de la vie dans ton quotidien ? C'est peut-être pas la même chose que ce qui produit de la vie dans mon quotidien. Alors merci Bacchus pour cette petite remarque et je tâcherai de faire preuve de plus d'humilité à l'avenir. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Moi, il me reste maintenant une bouteille à terminer, mais je ferai ça dans l'intimité. Vous pouvez me retrouver le premier vendredi du mois à 13h20 sur radiofmplus.org, le podcast, ou en direct à 13h20, donc le premier vendredi du mois, comme je viens de le dire. Je vous dis à très bientôt, c'est un plaisir, et n'oubliez pas de prendre le temps de déguster en toute humilité.
Nous sommes là, entre nous tous les deux, seul à seul, tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais par où commencer ? Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé.